J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de me compatir au fait langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'avoir choisi Radio Okapi et parole aux auditeurs pour vous tenir compagnie. Nous sommes ensemble pour environ 1h15 d'échange et de partage. Ce mercredi 20 octobre 2010, nous parlons enseignement supérieur et universitaire avec vous, auditeurs de Radio Okapi. Les cérémonies d'ouverture de l'année académique 2010-2011 sont déroulées un peu partout en RDC. C'était le samedi 16 octobre dernier. Les questions qui touchent à l'amélioration des conditions d'études pour cette année font l'objet des paroles aux auditeurs de ce jour. On se rappellera qu'en vue de mettre de l'ordre dans le secteur, le ministre ayant l'enseignement supérieur et universitaire en charge a pris différentes mesures, entre autres la fermeture des établissements dits non viables, la suspension des écoles doctorales et chaires UNESCO. La mesure de fermeture a concerné également près de 265 établissements organisant les filières d'études médicales sur l'ensemble du territoire national. Lors de sa rencontre samedi 4 septembre dernier avec les membres des comités des échanges des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire fonctionnant à Kinshasa, le ministre Macha Komamba a indiqué que sur les 506 filières organisées dans les 11 provinces, en ce qui concerne la santé bien sûr, seules 80 ont été jugées viables, 161 au niveau intermédiaire et 235 de l'ensemble sont non viables. Plusieurs préoccupations dans cette émission, que ce soit pour la fermeture des établissements non viables ainsi que la suspension de certaines écoles doctorales et chaires UNESCO, vos points de vue, réactions et propositions sont les bienvenus dans cette émission. Nous avons au téléphone le professeur Léonard Macha Komamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Marie-Chantal Lumba et Cynthia Bachiji sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Dédonie Yangata et Pierrot Lamégie vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bonjour à tous. C'est depuis le samedi 16 octobre dernier qu'a eu lieu la cérémonie officielle marquant l'ouverture de l'année académique 2010-2011. Et cela intervient dans les contextes où plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire déclarés non viables ont été fermés, ainsi que certaines écoles doctorales et chaires UNESCO qui ont été suspendues. Si vous avez des préoccupations, appelez-nous au 081-890-6315. Vous avez besoin de donner votre point de vue sur ce qu'il faut faire pour l'amélioration des conditions d'études pendant cette année académique. Vous pouvez également le faire par l'adresse mail pa@radiookapi.net. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, nous avons en ligne le professeur Léonard Macha Komamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, pour la énième fois d'ailleurs, pour discuter avec les auditeurs des Radio Okapi, les matières qui touchent l'enseignement supérieur et universitaire. Vous avez pris l'année passée un certain nombre de mesures en ce qui concerne l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais bien avant que nous puissions aborder cette question, je m'avais juste vous demander quel est le caractère particulier de cette année académique 2010-2011 avant que nous puissions entrer dans d'autres matières qui touchent aux conditions d'études.
Merci beaucoup pour l'occasion que Radio Okapi me donne une fois de plus pour éclairer l'opinion nationale, voire internationale, sur ce que nous visons dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Durant l'année académique 2010-2011, nous allons continuer le processus de la refondation de l'enseignement supérieur en termes de l'amélioration du social, du corps qui compose l'enseignement supérieur, en termes de construction et de réhabilitation des infrastructures dans lesquelles on forme la jeunesse. Trois, en tenant compte de la mondialisation, c'est le renforcement de l'équipement dans le domaine informatique et l'interconnexion des différents établissements, dans les villes universitaires, mais entre les provinces également.
Mm-hmm.
C'est la poursuite, en ce qui concerne les filières techniques, de cette recherche d'un partenariat avec le secteur privé, donc le patronat, de façon à ce que nous formions des jeunes qui savent ce qu'ils vont devenir demain. On ne peut plus continuer à former pour former. Et bien sûr, nous allons continuer l'enquête de viabilité pour ne pas laisser des établissements qui ne répondent pas aux normes continuer finalement à tirer vers le bas les secteurs qui doivent former l'élite. Et nous mettons un accent particulier sur le pourcentage des jeunes filles congolaises qui doivent entrer à l'enseignement supérieur, et surtout dans les filières techniques et technologiques et professionnelles, parce qu'il est important, et cela a été démontré par des études menées dans le monde entier, dans l'enseignement supérieur, si on investit sur la jeune fille, on investit deux fois. Et donc, là aussi, il faut que notre pays puisse effectivement être attentif sur la place de la jeune fille congolaise à l'enseignement supérieur, surtout, on veut avoir des femmes ingénieurs civils, ingénieurs industriels, ingénieurs du bâtiment, et dans toutes les autres filières du secteur technique. Voilà donc les grands objectifs, en rappelant que 10 ans après l'égarement qu'on avait constaté dans le calendrier académique, nous reprenons maintenant l'année pour l'ensemble des institutions, tant du secteur public et privé, de l'enseignement supérieur dans les 11 provinces, et le retour de l'université de Kinshasa, qui est la fille aînée, et qui pendant 10 ans pratiquement avait quitté le calendrier académique, ce retour c'est un élément important, parce que cette université qui a elle seule à 40% du corps enseignant de l'ensemble de plus de 1000 universités instituts de la RDC, le retour de l'UNIFIN avec une production moyenne de 50 thèses de doctorat pour cette année, mais nous pensons pour l'année académique, l'objectif, j'ai dit à M. le recteur, il faut qu'il y ait plus de 100 thèses, et donc qu'il y ait plus de recherches pour que ceux qui ont fini le BA entament la préparation de la thèse, et ceux qui sont en train de le faire, qu'ils puissent rester concentrés. Et donc,
oui, merci,
nous pensons aussi que nous allons améliorer encore la coopération avec les partenaires pour nous aider le gouvernement à augmenter le nombre de ceux qui font les recherches et qui, à la fin, ont des thèses et deviennent professeurs, ce qu'on appelle le personnel enseignant qualifié.
Voilà. Merci, monsieur le ministre. On vous garde en ligne parce qu'il y a aussi les auditeurs comme Théodore qui nous appelle de Lubumbashi, Albert de Bukavu. Mais après quelques secondes, je veux revenir à vous pour vous poser une deuxième question qui va nous permettre d'entrer dans le vif de notre émission. C'est tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, en ce qui concerne la réforme du secteur, vous aviez d'ailleurs pris un certain nombre de mesures en ce qui concerne la viabilité des établissements. Il y en avait qui ont été fermés carrément, et il y en avait autant, que ce soit dans la filière qui touche aux études médicales, que ce soit aussi en ce qui touche la médecine et les autres filières. Il y a aussi la mesure de suspension de certaines écoles doctorales sur UNESCO. Et quand vous regardez ces mesures, où en est-on avec leur application aujourd'hui? Est-ce que tous ces établissements fermés ont-ils réellement fermé les portes? Est-ce que les certaines écoles doctorales, leurs extensions et sur UNESCO, est-ce qu'elles sont suspendues? Comment vous évaluez ces mesures?
Oui, c'est une question très importante, comme je le disais. Nous sommes très attentifs concernant les institutions fermées. Je pense à l'évaluation, le 9-10e a fermé, il y a l'une ou l'autre institution qui s'obstine à vouloir défier le temps et l'État. Mais je peux vous assurer que j'ai dit aux parents et aux étudiants en disant, si vous, on dit mon peuple meurt par manque de connaissances, l'État vous dit voici les normes. Et l'État vous montre que l'institution où vous allez, où pour les parents là vous avez vos enfants, ne répondent pas aux normes. Donc à l'issue de cette formation, il n'y aura aucun diplôme qui va être signé. si les gens doivent continuer à persister, non seulement je pense demain il faudrait qu'ils s'en prennent à eux-mêmes, mais nous avons le devoir aussi, je viens de préparer un dossier à ce maître au ministre de la Justice, parce que dans toutes les équipes que nous envoyons sur le terrain, il y a un représentant du ministère de la Justice. Donc nous tenons à ce que les équipes qui descendent sur le terrain sont multidisciplinaires. Et donc là aussi, quand finalement les gens doivent défier l'État et s'obstiner dans l'erreur, il faudrait quitter le secteur seulement des conseils de lancement pour recourir au secteur de la justice. Voilà. Concernant les écoles doctorales, et ceci c'est un drame, vous ne pouvez pas vous imaginer que dans les coins et les recoins du pays, à travers des universités de l'UPEN, on ouvre des écoles doctorales, là où déjà nous n'avons ni bâtiments, ni enseignants. Et vous voyez, on est en train de vous dire qu'on forme des futurs professeurs le samedi et le dimanche, sans professeur, et à travers tout le pays. Mais ça sera quel professeur si déjà nous avons des difficultés pour équiper pour la formation du premier et du deuxième cycle, donc pour le gradé, pour la licence, mais ceux qui doivent devenir demain les maîtres. Et donc voilà pourquoi, après avoir découvert ce jeu malsain, où on a rabaissé les critères d'admission dans ces écoles doctorales, où on fait payer 1000 dollars par année et par étudiant. Je viens de voir dans une province, on vous dit, nous avons 123 candidats, mais dans cette province-là, dans cet institut, on manque même des enseignants pour l'institut. Comment ils vont maintenant avoir des professeurs pour former des futurs professeurs?
Voilà, mais monsieur le ministre, permettez que nous puissions prendre les auditeurs, parce qu'on voudrait plus qu'ils vous posent aussi peut-être des questions, ils ont peut-être des préoccupations, des propositions, comme ça on va revenir, on va cheminer ensemble comme on le fait d'habitude. Alors, Lumbashi, Théodore, vous êtes en ligne, bonjour Théodore.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute Théodore, quelle est la préoccupation par rapport à cette année académique 2010-2011?
Merci beaucoup pour me réserver la primaire. D'abord, je remercie sincèrement les journalistes de la Radio Capi pour nous offrir ce cadre de d'interaction, et en même temps je remercie aussi le professeur, le ministre Machako qui est là-bas, pour tous les efforts qu'il entreprend pour la performance du secteur éducatif au niveau supérieur. J'ai un constat et des préoccupations. Le constat est malheureux parce que je suis du 14 d'entrée de la ville de Kananga. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire n'a jamais enquêté les institutions supérieures universitaires d'éducation occidentale qui se retrouvent dans un état de l'ardement total. Et le deuxième volet de ce constat, c'est que l'éducation occidentale, notamment dans la ville de Kananga, a une extension de l'université de Lubumbashi qui a déjà perduré plusieurs années. Et cette extension demeure toujours extension, et que Mujima, qui a aussi une extension, a bénéficié d'une université officielle. Et de récemment, nous apprenons aussi qu'à Lukati, qui était une extension de l'université de Lubumbashi, à quelques kilomètres de Lubumbashi, cette extension est devenue aussi un campus et une université officielle. Je me dis pourquoi cette mesure de deux poids, des mesures, cette question de deux poids, des mesures, pourquoi cette politique-là au niveau du ministère de l'enseignement supérieur universitaire? Voici mes deux observations.
Allez-y rapidement, M. Théodore, vous êtes sur les antennes, allez-y rapidement.
La première observation est celle-ci, et c'est un souhait. Je voudrais que le ministre de l'enseignement supérieur, qui doit tenir compte qu'aujourd'hui nous ne vivons pas le problème de pôle de développement, puisque les cafés n'ont pas défendu, même sur le plan d'éducation de Lubumbashi, nous voudrions que les cafés n'ont pas pu bénéficier. En dehors de l'université Notre-Dame de Kassai, qui a un caractère spécifique, on est une université officielle, donc on transforme cette extension à une université officielle, ça va permettre quand même la formation doctorale à Kananga. La deuxième observation, c'est aussi un problème des auditoires délocalisés. La ville de Kananga a bénéficié des auditoires délocalisés de l'Institut supérieur d'études sociales ISER. Le ministre a signé, une lettre circulaire où il demandait la suppression des auditoires délocalisés. Et l'ISER a fermé ces auditoires délocalisés. Mais, curieusement, sur le terrain, nous voyons que ces auditoires fonctionnent. On a changé, maintenant c'est devenu un Institut supérieur d'études sociales. Et alors nous nous demandons, est-ce que les mesures sont prises seulement au niveau du sommet et que à la base il n'y a pas exécution, puisque ce n'est qu'à Kinshasa que les murs se trouvent et ils ferment tout ça, mais au niveau de l'intérieur, les exemples sont vraiment nombreux.
Merci.
Et je puis les citer même ici à Lubumbashi. Voilà,
merci. Voilà, merci Théodore, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, nous allons à Bukavu. Albert, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur, merci beaucoup.
On vous écoute Albert.
D'accord, je commence par vous dire merci et dire merci à monsieur le ministre Macha Koumamba, puisque non seulement il est en train de mettre de l'ordre dans le secteur, mais aussi il est en train de donner un crédit à l'échelle internationale à notre enseignement. Mais je voudrais répondre immédiatement à deux questions. La première, état de lieu. Moi, je suis dans le sud de Kivu et je ne parle pas pour Bukavu seulement, je parle du sud de Kivu où vous trouvez dans chaque village un établissement d'enseignement supérieur dans chaque village où il n'y a aucune infrastructure. Tous ces établissements-là sont parrainés soit par un ministre comme lui ou soit par un député national. Et quand il y a même la situation est presque pourrie vraiment, donc sombre et désastreux.
Mm-hmm.
Donc c'est pas l'état des lieux.
Ouais.
Donc là je vais à la deuxième question.
Il y a fait position rapidement.
Que faire pour moi, la première des choses, c'est que il faut que le ministre fasse une approche globale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que le ministre puisse associer les autres ministres, comme le ministre de la Justice, comme il venait de le dire, celui du travail, de l'intérieur, mais aussi l'Assemblée générale et le Sénat, le gouvernement. Pourquoi? Puisque s'il prend des mesures sur le terrain, les autres ministères peuvent déjà exécuter, arrêter les gens pour le non-dysfonctionnement de notre système. Donc il faut une approche globale. Mais qu'est-ce que lui entreprend faire, puisque ce sont ses collègues ministres et députés qui parrainent toutes ces institutions-là.
Voilà.
Et quand il y a même une commission d'enquête qui descend sur le terrain, cette commission d'enquête est d'abord en contact avec le député du milieu qui donne des injonctions et qui parraine ces institutions-là.
Mmh.
Donc d'abord, ça c'est en amont et en aval. Il faut aussi qu'il ouvre un site où le terrain peut déjà lui faire des suggestions. Mais je lui pose aussi d'autres questions. Il y a des établissements d'enseignement supérieur qui ont été publics et agréés et qui l'ont fermé. Et qui avaient déjà des personnels avec les numéros matricules.
Mm-hmm.
Qui deviendront ces personnels-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans ces établissements, il y a des gens ou des enseignants qui avaient déjà même publié beaucoup d'articles pour devenir, par exemple, chef de travaux.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'ils réservent à ces gens-là, à ces enseignants-là? Voilà au mot pour ne pas abuser de votre temps, mais nous avons beaucoup de solutions, mais comme nous ne pouvons pas prendre tout le temps, comme il y a d'autres, nous voulons effectivement qu'ils puissent nous donner le couloir où nous pouvons être en contact avec lui, ou le site, ou même le numéro ou l'adresse email, où nous pouvons lui dire quelque chose, une fois qu'ils sont maintenant en contact avec la base.
Merci, Albert.
Je ne suis pas nécessairement à ceux-là qui sont à Kinshasa ou à sa commission, mais c'est pour être à la banque en contact avec la base.
Merci.
Puisque nous sommes là pour l'aider et nous l'appelons des ministres coriaces et nous demandons au gouvernement, même s'il y a un remaniement, qu'on les laisse encore travailler même pendant 10 ans. À ce moment-là, notre ministère, notre enseignement aura de la valeur à l'échelle internationale, j'ai dit, je vous remercie.
Merci Albert, vous êtes à Bukavu, nous restons dans le secteur de l'Est, à Beni, c'est au nord qui vous sert, vous êtes en ligne, bonjour Steve.
Oui, bonjour Steve, j'appelle de tout bout, mais je suis étudiant à Beni, c'est de suite.
Ah voilà, je savais que vous êtes étudiant à Beni, mais pour le moment vous appelez depuis Bounia. Steve, on vous écoute rapidement votre préoccupation parce que nous avons le ministre sur les antennes.
Oui, moi j'aimerais aussi, normalement je suis très content de ce sujet, et de m'avoir donné sur la partie de parler. Je pense que ce soir, j'ai dit ici que nous, au Brésil, j'étais bien à Ben là où je suis dit, il y a vraiment beaucoup d'universités, malgré que les ministres ont donné cette promotion de fermer, mais certaines universités continuent toujours à devoir fonctionner, nous ne savons pas maintenant si ça qualifié sera vraiment plus d'association. Maintenant, l'autre question que j'aimerais poser sur le ministre, c'est, votre université commence à utiliser le système LMB. Alors, j'aimerais demander si vraiment il est au courant de ça et s'il a déjà été autorisé aux universités du pays d'utiliser ce système-là.
Oui, Steve, la première préoccupation, permettez, s'il vous plaît, permettez aux auditeurs de comprendre, c'est quelle université, votre université, c'est laquelle, à Beni?
Oui.
Votre université, c'est laquelle?
Oui, c'est l'université chrétienne bilingue du Congo.
chrétienne bilingue du Congo et il est à Beni. Vous parlez de quel système que vous utilisez?
La méthode de LM2, licence, maîtrise et doctorat.
Voilà, licence, maîtrise, LM2. Ok, si vous demandez si le ministre est au courant de ce système.
Oui.
Ok, allez-y rapidement à la deuxième préoccupation.
Ah, oui, j'aimerais aussi parler de... Allô?
Allez-y rapidement, votre deuxième préoccupation.
Oui, la famille de l'université, c'est bon, mais le ministre de l'Assemblée, c'est très bon, parce que même nos écoles primaires, secondaires, là aussi, devait normalement assainir. Mais sans commencer à la tête, il fallait commencer à des racines. Vous allez voir l'université, il y a des frères de système à l'université. Alors moi, je pense qu'il fallait commencer par les écoles primaires, les écoles secondaires, commencer à finir, mais sans commencer à faire la tête.
Merci.
C'est l'université, au sommet de là où c'est ma proposition.
Donc, merci. Je pense
que nous avons le problème des enseignants. Les enseignants, nous, au niveau du disciplinement. C'est vraiment l'ultime, l'inoulou, et je crois, il existe.
Voilà, merci Steve. Malheureusement, la ligne de Steve a posé le problème. Le dernier auditeur de la série, avant qu'on donne la parole à notre invité, c'est Manon Adekikwit. Manon, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, c'est moi.
Vous avez suivi hein, les autres auditeurs, le problème spécifique que vous pouvez leur donner et votre contribution par rapport à cette infrastructure pour améliorer les conditions d'études. On vous écoute, Manon.
Ok, merci beaucoup, Pierrot.
Voilà, et on s'excuse pour la ligne de Manon qui semble poser des problèmes. Vous êtes écrit. Le temps que vous puissiez vous repositionner, on va revenir à vous, mais donnons la parole à monsieur le ministre pour commenter les quelques préoccupations des auditeurs qui se sont déjà passés sur les antennes. C'est après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, vous avez suivi les trois premiers auditeurs. Il y a beaucoup de préoccupations. S'il faudrait répondre vraiment une par une, ça risque même de nous prendre toute une journée. Théodore de Kanagabeti, pour le moment à Lubumbashi, il s'inquiète que le ministère n'a pas amené d'enquête au Kasaï occidental. Il se demande pourquoi ne pas voir l'université officielle à Kananga, par exemple, transformer l'extension universitaire de Lubumbashi, les auditeurs délocalisés, l'INDES, l'Institut supérieur d'études sociales qui s'est transformé. C'est ce qu'on peut dire, changer aussi de vocation. Il y a Albert de Bukavu qui a fait l'état des lieux, qui s'inquiète qu'il y a l'interférence des politiques dans l'ouverture des universités, ce qui ne facilite pas aussi la tâche, et qui deviennent le personnel des universités publiques fermées. Et Steve de Beni a posé une question spécifique pour l'université chrétienne bilingue de Beni. Ils organisent des licences, maîtrises et doctorats. Est-ce que vous êtes informé de tout cela? Voilà un peu les préoccupations de ce premier groupe d'auditeurs.
Merci Pierre. Je voudrais tout d'abord remercier Théodore qui a posé de très bonnes questions et le rassurer. Si il a pu suivre mon allocution le samedi 16 octobre, j'ai annoncé qu'il y a 5 provinces qui n'ont pas encore eu les missions déployées. C'est les 2 Kassai, les 2 Kivu, le Maniema, une partie du Bas-Congo. Mm-hmm. Mais le Kassai occidental, nous l'avons visité pour les filières médicales. C'est même dans cette province, on a vu certains comités de gestion fuir lorsqu'elles apprenaient que les équipes d'enquête étaient sur terrain. Et donc, qu'ils sachent que le Kassai occidental va être la prochaine étape parce que déjà à la fin de ce mois, nous allons annoncer les mesures concernant le Katanga, le Bandundu, l'Équateur et la province orientale parce que nous venons de boucler l'enquête et l'audit dans ces 4 grandes provinces.
Mmh.
Il a posé une autre question sur les extensions et je peux le rassurer que j'ai annoncé la fin des extensions. Donc, nous avons analysé toutes ces extensions. La plupart, en fait, n'étaient jamais contrôlées sur le plan académique, par les maisons mères. C'était seulement un rapport d'argent. Et donc, nous ne voulons pas qu'on continue ce système. Nous allons évaluer les extensions. Et lorsque vous voyez qu'elles sont viables, les autonomiser. Donc, il peut être assuré que le travail qui va être fait au Kassai occidental permettra de lui apporter des réponses. Demain, nous allons être attentifs. Nous avons déjà fait une observation à l'ISES sur Lubumbashi pour dire que c'était déloyal. Il ne signalait pas qu'ils avaient un auditeur de l'organisation occidentale. Et lorsque nous avons fait le contrôle de scolarité à Lubumbashi, dans cet institut, nous avons découvert qu'ils avaient des étudiants qui physiquement n'étaient pas là-bas. C'est comme ça qu'ils vont nous avouer qu'ils ont une extension aux questions occidentales. Donc le travail qu'on est en train de faire sur le terrain est en train de nous faire découvrir des réalités du terrain. Il peut être rassuré que nous sommes attentifs et il y a une suite qui va être donnée. Concernant Albert, je le remercie aussi pour l'observation qu'il a fait de voir que dans chaque village, il y a des établissements. Et je voudrais vous dire que la dernière mission que j'ai envoyée au sud Kivu, il y a même des endroits, on a vu des établissements qu'on a créés qui n'existent pas, mais pour lesquels l'argent continue à sortir. Donc on est très attentifs et nous aurons des détails au moment où nous déploierons les équipes dans l'ensemble de Kivu et du Maniema. Mais je peux le rassurer, parmi les mesures conservatoires que nous prenons, il y a des mesures qui concernent les étudiants lorsqu'on ferme un établissement, mais il y a des mesures aussi qui concernent le personnel. Ce personnel est le personnel de l'enseignement supérieur universitaire, mais nous précisons que nous vérifions si leurs conditions d'engagement étaient correctes. S'il était correct, nous les maintenons dans les institutions de la contrée. Si ce n'est pas possible, nous les affectons ailleurs. Donc, dans les mesures conservatoires, lorsque nous fermons une institution, nous prenons soin de ne pas léser le personnel, et donc ce qui peut être rassuré. Et concernant les moyens de communication, le ministère a un site web, et donc là nous pouvons avoir des informations. Il peut demander par exemple à l'une ou l'autre autorité académique aussi l'adresse email du ministère, donc nous sommes disposés à recevoir les différentes informations. J'étais donc à le remercier. Et je vais vous signaler que dans les équipes que nous envoyons, parce qu'il a insisté sur l'approche globale, il n'y a pas que le cadre du ministère de l'enseignement supérieur, il y a des cadres du ministère de la Santé, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, de la Primaté. Donc nous avons des équipes multisectorielles et pluridisciplinaires que nous avons sur le terrain pour éviter que le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire soit jugé parti. Donc il peut être rassuré si vous ne le savez pas, les équipes que nous envoyons, elles sont composées de cadres venant de plusieurs ministères. Et concernant même les filières médicales, on a vu à ce qu'en plus il y ait représenté de l'Ordre des médecins et représentation de l'Association nationale des infirmiers du Congo, parce que c'est des domaines qui sont spécifiques. Et donc, il peut être rassuré que nous tenons compte de ces pressentiments. Nous les avons déjà mis en application. Concernant Steve, qui est à Bounia et qui étudie à l'université chrétienne bilingue, je voudrais dire d'abord que c'est une des universités dont on est fier et que j'ai autorisé effectivement qu'ils puissent commencer le système LMD. Le système LMD, comme vous le savez, c'est aujourd'hui dans le monde entier, on utilise cette approche licence, maîtrise, doctorat. Et nous l'avons dit, pour ceux qui, les anglophones, c'est le bachelor, master et PhD. L'université chrétienne bilingue de Bénin que j'ai visité et dont je suis fier, ils ont un bon équipement informatique dès la préparatoire. On doit mettre l'anglais et le français, et donc ils donnent les cours dans les deux langues, ils sont connectés sur Internet. Ils ont de bonnes collaborations avec des universités européennes et américaines. J'ai autorisé le comité de gestion, après l'avis du gouvernement, à ce que les universités de notre pays, que ce soit celles de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord, que nous avons évalué qu'un bon niveau de pouvoir directement entrer dans les standards internationaux, voilà. Ils devraient être fiers de savoir que son université fait partie déjà de ce qui est dans les standards internationaux.
Voilà, merci monsieur le ministre. Nous avons aussi sur les antennes le professeur Jean-Jacques Kapenga. Vous êtes coordonnateur de l'école doctorale de l'Université pédagogique nationale UPN. Professeur, vous organisez des cours à l'école doctorale et nous débattons sur l'amélioration des conditions d'études. Vous savez que certaines écoles ont été fermées par le ministre parce qu'ils ne répondent pas aux conditions de viabilité et toutes ces questions nous concernent dans cette émission. Et vous-même qui coordonnez cette école doctorale à l'université pédagogie nationale. Quelle analyse faites-vous de formation actuelle des étudiants qui sont en Kinshasa, ou les autres extensions qui sont à travers les provinces professeurs?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pour la première fois que vous me donnez l'occasion de parler de tout ce que vous avez commencé. À ma connaissance, il n'y a pas plusieurs écoles doctorales. Il y a l'école doctorale de l'UCEL qui a signé des contrôles d'accord avec quelques instituts supérieurs du pays, notamment une dizaine. Et comment nous organisons la formation? Puisque ces gens sont des travailleurs, ils donnent cours. Nous envoyons des professeurs de l'UQN ou de l'UQIN qui vont sur place pour attirer les séminaires, parce que la formation se fait en deux temps. Une année, c'est pour les séminaires, la deuxième année, c'est pour les recherches, et les candidats viennent à l'UQN pour défendre leur mémoire de DA avant de continuer l'appel. Alors, ce que je ne comprends pas depuis que ça a commencé, le groupe est ici. Or, nous avions déjà sur place plusieurs thèses qui étaient enchantées, qui doivent être défendues, plusieurs mémoires. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais ce que je voudrais signaler, c'est qu'on a passé depuis le début, monsieur le ministre, comme tout le monde, monsieur le ministre connaissait qu'il y a un projet de financement de l'école doctorale de la base qui devait nous donner 2 500 000 $ et qui est un deuxième financement qui devait venir de Boston aux États-Unis, monsieur le ministre connaît. Et le monsieur le ministre a attendu maintenant quand le financement devait venir pour bloquer, pour dire que non, les choses ne marchent pas. Il y a quelque chose qu'on doit bien voir. Si monsieur le ministre, depuis qu'il était devenu ministre, il a envoyé à l'UPEN les 3 commissions pour s'inscrire à l'école doctorale. Il a, après 4 mois, il a convoqué le comité de gestion pour aller lui donner un conseil de l'école doctorale. Après 6 mois, il défend l'école doctorale. Le ministre est très bien informé du fonctionnement de l'école doctorale depuis que ça avait commencé. Nous comprenons à la 4e année. Lui est venu il y a maintenant 2 ans. Il y a eu tous les ministres qui étaient passés dans la ville, ils ont eu des problèmes.
Voilà.
Le
professeur Jean-Jacques Sapenga, l'un de nous, l'idée d'aller dans un débat en polémique autour de ça, il faut quand même qu'on ait des solutions concrètes aux problèmes parce que les problèmes se posent en tant que tel. Mais est-ce qu'à ce jour, comment ça se passe à l'Université de Pédagogie Nationale, c'est pour ça qu'il y a ça en province, est-ce que les séminaires de cours sont suspendus ou bien vous continuez à fonctionner? Est-ce qu'il y a, vous avez quand même fait le rapport au ministère pour, selon les conditions qui étaient posées, à quel niveau se trouve aujourd'hui le fonctionnement au sein de l'école doctorale de l'Université Pédagogique Nationale?
Le fonctionnement à tout le niveau est bloqué, nous attendions le ministre parce que quand il a écrit sa lettre, nous lui avons adressé un rapport complet pour le fonctionnement, mais il n'a jamais répondu à ce rapport-là, c'est pas le problème.
Voilà.
Nous attendons, il n'y a pas d'activité qui compte.
Voilà, mais aujourd'hui, si il vous est demandé de donner des propositions pour améliorer la formation et permettre la relève, qu'est-ce que vous proposez, que ce soit aux auditeurs, que ce soit aux ministres, vous qui gérez l'école doctorale, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on améliore la situation, professeur?
Normalement, nous, dans notre mode de fonctionnement que nous avions mis en place, c'est la meilleure possibilité. Si le ministre avait une proposition, il devait nous la faire. Mais ce que nous ne comprenons pas, ce sont les mêmes professeurs qui donnent cours ici, qui vont donner cours à l'intérieur qui rentre. Mais le ministre vient de parler qu'il y a plus de 1000 établissements, 1000 universités. Or, nous avons 1200 professeurs. Le ratio donne un professeur par établissement pour toutes les disciplines. Et l'âge moyen des professeurs, je vais dire ça au ministre, l'âge moyen est de 65 ans.
Mm-hmm.
Beaucoup souffrent des maladies d'accompagnement. Lui-même connaît la prostatite, le diabète et l'hypertension
cancer.
Comment on va former les gens avec un tel personnel? C'est cela le problème. Mais le ministre, passe le pot à côté et laisse les problèmes réels. C'est cela. Est-ce que ce n'est pas le problème d'argent de ce financement-là de 2 500 000 $?
Voilà. Voilà, professeur Jean-Sapenga. Merci de toutes ces difficultés de le présenter. Mais je ne crois pas qu'on fasse vraiment un débat autour de 2 millions de dollars sur les antennes. On veut des propositions concrètes. Permettez que nous puissions prendre Dany qui est en bougement et nous allons directement donner la parole au ministre. Parce qu'apparemment, à l'UPN, vous dites que tout est bien fait. Vous avez transmis le rapport, mais malheureusement, vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais nous sommes là pour qu'on trouve des pistes et des solutions ensemble dans cette émission. Prenons d'abord Dany qui est en bougement et nous allons remettre la parole au ministre. Tout juste après. Dany, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, c'est Dany Bamouamboujimaï.
Voilà.
Oui, nous avons apprécié des décisions que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avait pris pour refermer certaines institutions. Mais nous regrettons que cet aspect des choses, il a été motivé par quelle décision? Parce que quand vous envoyez une commission dans une institution, c'est écouter les gens, c'est défendre, mais à un certain moment, vous pouvez les interpeller. Mais soit malheureusement, nous avons connu certaines institutions qui n'ont jamais même vu même un agent de commission que le ministère avait envoyé pour inquiéter certaines institutions pour leur viabilité. Mais d'emblée, nous avons vu que ces institutions sont fermées. Mais certaines qu'on avait certainement peut-être inquiété, mais n'ont pas connu cette mesure de fermeture. Mais pourquoi ce genre de pratique? Et aussi, qu'est-ce que le ministère a fait pour les institutions, pour leur viabilité? Ou bien seulement fermer, encourager les volontés privées, ou bien c'est seulement, je ne sais pas.
Voilà, on vous comprend. D'un niveau, pour ceci, c'est que vous demandez au ministre de savoir ce que le ministère fait aussi pour rendre les institutions viables, c'est en quelque sorte, c'est ça.
Oui.
Merci, Dani. Nous allons terminer avec Kamanda. Kamanda, vous êtes secrétaire à l'ISP Walikale, c'est dans le Nord Kivu, secrétaire administratif, bien sûr, voilà, la situation est précise. Vous êtes secrétaire administratif à l'ISP Walikale aussi, qui vous. Kamanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi, quelles sont les grandes difficultés que vous avez à l'ISP Walikale et comment on peut améliorer les conditions de financement de l'ISP pendant cette année scolaire 2010-2011? On vous écoute.
Oui, merci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord saluer la présence de ministre qui est en ligne avec nous, de partager au nom de notre comité de gestion de l'ISP Walikale et partager la compassion avec les ministres sur l'accident tragique que son cabinet vient de connaître à Goma pour l'assassinat de son conseiller. La difficulté que nous traversons à Walikale dans notre institution, ça cadre surtout avec le personnel enseignant. Nous avons deux catégories de personnel enseignant. Il y en a ceux qui sont reconnus par l'institution, c'est-à-dire par le ministère. Il y en a aussi une autre catégorie des enseignants qui sont en réserve, qui ne sont pas mécanisés jusque-là. Alors nous, on demanderait peut-être à son excellence de pouvoir revoir cette situation pour cette année académique, en fait que tout le personnel soit reconnu dans l'institution, et surtout que nous ne faisons que bénéficier de la prime institutionnelle depuis que nous avons existé il y a 15 ans. Une autre difficulté également, c'est aussi la périodicité de la paix de cette prime. Et comme la prime n'est pas tellement suffisante, il faudrait que cette périodicité soit respectée, c'est-à-dire à chaque fin du mois, il faudrait que cette prime arrive entre les mains du personnel. Aujourd'hui, nous venons de traverser à peu près 2 mois, la prime n'est pas venue et nous avons respecté le calendrier académique, nous avons ouvert les portes depuis ce lundi, et les étudiants sont là et les assistants commencent déjà à enseigner, mais ils enseignent dans un climat de morosité, en disant voilà, nous avons un retard de paiement, il n'y a pas de moyens pour nous soutenir. Alors, nous ne savons pas comment les gérer, mais nous insistons, nous continuons à travailler.
Merci. Voilà. Merci, commandant. Vous êtes secrétaire administratif à l'ISP Walikale, c'est dans le Nord Kivu.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, après la deuxième vague d'intervenants, nous allons ramasser encore une fois de plus les préoccupations. Vous avez suivi le professeur Jean-Jacques Kapenga, coordinateur de l'école doctorale de l'Université pédagogique nationale UPN. Il y a assez de problèmes. En fait, il s'inquiète, il pense que toutes les conditions sont remplies. Vous avez déjà mené des enquêtes. Tout doit être en ordre, mais ils sont surpris pourquoi tout est bloqué chez eux, tout est suspendu. Mais apparemment, là où il pose un problème, peut-être de solutions alternatives que vous pouvez proposer pour permettre à ces écoles doctorales de fonctionner, des cas de l'UPEN, par exemple, loin de nous l'idée d'aller dans la polémique autour du financement, de l'argent, mais des propositions alternatives qu'il faudrait par rapport à la situation de l'UPEN comme il vient de la présenter.
Merci beaucoup. Je voudrais saluer le professeur Kabenga et lui donner peut-être le conseil. Il serait mieux d'abord lire les textes qui organisent le fonctionnement de l'enseignement supérieur universitaire et le troisième cycle et se rappeler, s'il ne communique pas avec son recteur, que j'ai pris les mesures conservatoires pour dire je suspends. J'ai demandé, dans, et c'est clair, qu'on me dise qui donne cours dans cette école doctorale et quelle est sa qualification. Ça, c'est la première demande. Deuxième demande, et que le recteur bien connaît, s'il lui fait semblant, de me donner la qualification des apprenants. Parce que la loi dit ceci, pour être venu dans le secteur académique, il faut avoir terminé ses études universitaires avec distinction, donc 70% ou 70%, ou avoir terminé 65% dans la dernière année et avoir fait distinction une année auparavant. J'étais désagréablement surpris de voir que dans les textes que eux m'envoient, qu'on recrute des gens qui ont un diplôme universitaire de 60%. C'est en violation de la loi qui régit le secteur académique. Alors, si finalement les gens qui doivent diriger le secteur académique ne connaissent même pas les lois ou les mettent de côté, et on est surpris de voir les types de gens qui sont recrutés, qui ne répondent pas aux normes, je suis le ministre des tutelles. J'ai entendu ce professeur, c'est comme s'il parlait à un copain à qui il veut donner des leçons. Donc, à ce stade-là, il relise bien le document que j'ai sorti, pour lequel ils ont répondu partiellement. Et tant que, en tant que responsable du secteur, un, je n'ai pas les dossiers de tous les équipes. Est-ce que Bukavu nous a envoyé et le dossier des enseignants et le dossier des apprenants? Mais pourquoi eux qui pratiquement créent même une extension à Guémena, une équipe revient de Guémena? Je ne sais pas si Guémena remplit les conditions aujourd'hui pour organiser une école doctorale. J'ai été aussi vu dans des villages sans électricité, sans quoi que ce soit, il y a des extensions de cette école doctorale de l'UPEN. Un jour, un dimanche, je visite une institution à Goma. Et je suis surpris. Je trouve que la moitié des apprenants étaient des membres du gouvernement provincial. Alors, je ne sais pas si lui qui dit qu'il dirait cette école, et donc s'il en fait qui a même la responsabilité, c'est-il assuré de la qualité de ceux qui sont apprenants. Et je voudrais terminer sur ce chapitre-là, en lui rappelant qu'il s'est tenu une réunion des doyens de l'université pédagogique, qui en fait constate avec malheureusement le ministère, que cette école doctorale s'organise en dehors même de facultés. Or, vous savez, les facultés d'université, elles organisent le premier, le deuxième, le troisième cycle, donc la formation des futurs docteurs et la formation en DADS. Donc, je pense qu'Eton, au lieu de se répandre dans les médias, dans des cabinets politiques ici et là, serait mieux de réduire d'abord les textes qui organisent l'enseignement supérieur, les normes de fonctionnement et de recrutement. Et je pense à ce moment-là, on ne perdrait pas du temps, on permettrait de lever la mesure si les éléments sont fournis. Tant qu'ils continuent à penser qu'ils vont aller s'ajouter chez tel, qui va convoquer le ministre, qui va faire cela, parler de millions d'argent ou de détournement, on aurait créé des institutions pour récupérer les étudiants qui viendraient de chez eux. Je pense que, à bon entendeur, comme on dit, salut, et comme on dit, celui qui a des heures pour entendre et qui l'entend, je l'ai dit le 16 octobre, je l'aurais dit maintenant, il m'écoute et tous ceux qui, avec lui, sont en train de penser qu'ils peuvent défier indéfiniment l'autorité de Kitter.
Voilà, il y a Dany Dembouzmaï et commandant de secteur administratif à l'ISP ou à l'Italie, Dany s'inquiète un peu, il dit qu'il y avait en Bouzmaï des institutions qui ont fait des mesures de fermeture, mais qui n'ont pas été contrôlées apparemment.
Vous savez, monsieur Ami, je voudrais rassurer Dany. Dany, nous avons organisé le contrôle de scolarité en Bouzmaï. Dany doit se rappeler aussi la crise à l'ISP Bouzmaï, à l'université officielle de Bouzmaï. J'ai envoyé une délégation conduite par mon directeur de cabinet et par le conseil juridique. Dany doit savoir qu'on a été dans le Kabinda, qu'on a été dans le Sankuru, qu'on a été à Mouenéditou. Je lui demande une seule chose, qu'on lise le Vadmekom, qu'on lise les textes pour montrer les normes de fonctionnement d'une institution. Et donc, on ne ferme pas pour le plaisir de fermer. Mais le gouvernement serait irresponsable s'il fermait les yeux devant des choses inacceptables.
Voilà.
Je peux donc le rassurer que dans la circulaire 011 qui régissait l'année passée et la 012, plus le document qu'on appelle le BADMECUM du responsable de l'enseignement supérieur, il peut trouver des réponses claires.
Voilà.
Et chaque fois qu'il lit, il compare avec l'état des lieux des établissements dont il parle, il va se rendre compte que nous n'inventons pas la roue. Et ces règlements, ils sont là, c'est pas
voilà.
Le ministre actuel qui les a créés.
Donc, voilà.
Faisons un effort pour que nous poussions nos autorités à veiller à ce que nous élevions le niveau de formation par les structures, par la qualité des enseignants, et pas peut-être toujours chercher la responsabilité à Kinshasa ou chez le ministre.
Voilà, on va aller dans longtemps vers la place de la
première. Je voudrais
dire
bonjour à vos amis de Marie-Carmé et compatir aussi avec tous ceux qui connaissent comme trouble. Je peux vous dire que l'année passée, nous avons mécanisé pour le budget 2010 8362 agents et pour le Nord Kivu, nous avons mécanisé 699. J'ai les statistiques devant moi. Et comme je l'ai annoncé aussi à l'ouverture de l'année académique, l'année passée, dans le budget 2010, nous avons fait un effort important, mais cet effort va continuer.
Ouais.
Et donc, c'est à eux de nous envoyer à temps les listes de gens non mécanisés, leurs fonctions, leurs secteurs, pour que le travail important que nous avons à bâtir l'année académique écoulée puisse continuer pour l'année académique 2010-2011. Et la question de la prime, je pense que c'est un problème général. Si on ne voit pas le même petit retard qu'ils ont, nous l'avons aussi à Kinshasa. Donc, je voudrais leur assurer qu'il n'y a pas de préférence pour une zone déterminée dans notre pays. J'encourage les enseignants, j'encourage les étudiants pour que
Merci, monsieur le ministre. Voilà, il y a beaucoup d'auditeurs en ligne. Apparemment, notre standard ne cesse de sonner à chaque moment. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir et surtout poser des questions. Mais là, nous allons vous demander pour le reste de la deuxième partie de l'émission d'être plus bref quand vous êtes sur les antennes, poser les problèmes directement, permettre d'avancer et que les autres aussi puissent intervenir. Nous donnons la parole ici à Kinshasa au professeur Raoul Okombok. Professeur, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, notre souci dans l'émission, c'est ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions d'études, les propositions, parce que nous tendons vers la deuxième partie de l'émission, c'est la partie des propositions concrètes pour améliorer les conditions d'études dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez de parler de notre enseignement supérieur et universitaire. Je viens de suivre le ministre, mais en partie. Mais dans tous les cas, je connais les problèmes qui se posent au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. J'ai entendu le ministre parler de l'école doctorale, des grades et de mesures de fermeture. Laissez-moi donner mon point de vue par rapport à ce que je sais, parce que nous ne sommes pas d'une génération spontanée. Hein. Je commence par l'école doctorale. Écoutez, d'abord, l'école doctorale, en tant que réalité, ce n'est pas une création de l'UPEN. C'est le système qui est en vogue aujourd'hui dans les cadres, le ministre le sait, dans les cadres du système LMD, voyez-vous. En tant que système, ce n'est pas notre invention. Mais quand cela ne tienne, chez nous, la structure de l'école doctorale, ce n'est qu'une structure administrative, voyez-vous. Mais tout est organisé, le troisième cycle doctorat, c'est organisé par les facultés. C'est par les facultés. Et ici, c'est le problème que je vous mets en évidence. La direction des thèses, la soutenance des thèses. Les professeurs viennent et de l'UNIQIM et de l'UPEN essentiellement. Je peux vous donner quelques cas. Hein, voyez-vous. Vous avez par exemple le professeur Ndoma, le professeur Nsuka, Ngila, Goudijika, Mimbu, et d'autres de l'UNIQIM. Mais participent au soutenant de thèse de mémoire. Les professeurs Léman, par exemple, de la faculté de lettres, c'est la mienne, je suis dans la faculté de lettres, ils participent au soutenant. Donc finalement, d'ailleurs, en son temps, ma faculté, la faculté de lettres et d'autres facultés avaient levé l'option claire de voir le troisième cycle les doctorats organisés par les facultés, et là vraiment ça ne pose pas de problème. Au contraire, nous avons l'impression que le ministre, notre ministre de tutelle, que nous respectons bien sûr c'est notre ministre, est en train de diviser les universités. Voyez-vous ? Alors que dans le fait, nous travaillons selon les normes et nous travaillons en collaboration.
Voilà, professeur Raoul, professeur Raoul, partons de quitter ça. Allons à Kanangalo, pour le ministre l'a dit, qu'il y a les extensions des écoles doctorales qui se trouvent dans ce milieu-là. Est-ce que vous avez la même mise, Kinshasa, la même mise sur ces extensions? Est-ce qu'on contrôle? Les gens les plus vite s'en disent, bon, c'est un peu le problème.
Nous sommes d'accord avec lui. Mais maintenant, lorsqu'on va au cas par cas, parce qu'on voit au cas par cas, nous trouvons des choses à dire dans les mesures qu'il a prises. Là où ça ne marche pas, très bien, il peut demander qu'on prise, mais de manière générale, il ne peut pas arrêter les activités. Mais je vais vous dire, lorsqu'il y a eu une mutation de l'UPEN à l'UPEN, on a assisté à l'UPEN, l'Université de la Police Nationale, se retrouver avec trois programmes. Il y a le programme ISP, le programme PADEM ISP, le programme PADEM des universités, voyez-vous. Nous avons, on peut donner que les diplômes pour les enseignements suivis. Alors, chez nous n'avons jamais programmé le licencié en médecine. Mais nos premiers docteurs seront programmés l'année prochaine. Nous sommes encore au niveau du deuxième grade, voyez-vous.
Voilà, oui, mais alors, merci, professeur.
On a enregistré licencié en agronomie, ça c'est le programme des GSP. Donc le ministre, qui connaît tout ça, il va à la place publique dire qu'à l'UPEN, on délivre, on sait du n'importe quoi, on délivre non.
Voilà, professeur Raoul. On ne saura pas aller parce que, en tout cas, c'est la fin de la première partie de l'émission. Il y a beaucoup d'auditeurs en ligne, mais dis-moi, le ministre n'a pas fermé les écoles doctorales de l'UPEN. Il a suspendu pour que les gens s'organisent pour mettre de l'ordre, si je me rappelle bien. Nous allons donner la parole à Thomas de Kananga qui va intervenir avant qu'on remette la parole au ministre pour passer au bulletin d'information tout à l'heure et revenir pour la deuxième partie. Thomas, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, Pierrot.
On vous écoute rapidement dans deux minutes parce que nous tendons vers la fin de cette première partie de l'émission.
Ok, ma préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir si réellement la décision du ministre est retenue sur les institutions supérieures cliniques médicales. Car j'ai constaté que dans notre ville de Kananga, il y a une filière qui a été supprimée, telle est que la santé publique de l'extension de l'UNIU. Et là, maintenant, on commence à inscrire les étudiants en G1. Est-ce qu'il y a d'autres institutions supprimées qui sont mises en exergue? Alors, quelle sera la position des étudiants des G2 et extension de la santé publique? C'est ça ma préoccupation.
Voilà. Merci Thomas. Nous remettons la parole à M. le ministre parce que vous allez intervenir jusqu'au bulletin d'information et nous allons revenir après le flash d'information. Mais avant de passer la parole au ministre, permettons à Henri de Kinshasa d'intervenir juste pour une minute. Henri, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Oui, merci. La première chose, je crois qu'il faut remercier M. le ministre pour sa décision courageuse, patriotique et même salutaire, pour mettre fin à la récréation dans notre enseignement supérieur. Moi, je crois que ce qu'il faudra faire, peut-être, c'est essayer de convoquer le recteur et les doyens des facultés des établissements maintenus pour qu'ils puissent faire une étude concrète, chiffré de ce qu'il faut pour établir notre enseignement supérieur. L'État congolais devra trouver, disponibiliser ses moyens matériels, financiers, même humains, pour que notre enseignement reprenne sa réputation d'antan. Parce que dans mon cas, si j'étais à la place de M. le ministre, au cas où l'État ne pourrait pas disponibiliser ses moyens, la meilleure façon de faire, c'est de démissionner par pièce. Et de ne pas porter la responsabilité de l'effondrement du système de l'enseignement supérieur dans notre pays.
Il a fallu que vous pensez que le ministre a la volonté de faire, mais malheureusement, il n'a pas assez de moyens qui peuvent être mis à sa disposition pour le faire. Merci Henri de Kinshasa. Monsieur le ministre, on vous donne la parole parce que nous avons deux minutes et nous allons au flash d'information et on se retrouve après le flash d'information pour la deuxième partie et la conclusion. Monsieur le ministre, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais saluer le professeur Raoul et lui dire peut-être qu'il connaît très mal sa maison. Donc j'ai devant moi les lettres du recteur, le patron de l'UPEN, qui s'adresse aux responsables de l'école doctorale pour leur dire que lui-même constate qu'on est pris à l'extérieur et que lui-même ne reçoit pas les rapports. Donc quand on me dit que c'est une structure administrative, mais on n'avait pas de faculté, mais est-ce que la réunion que les doyens de faculté ont tenue à l'UQAM juste après l'annonce de la décision du ministre, est-ce que c'est une fiction ou bien il veut présenter les choses autrement? Et puis je voudrais terminer en lui disant que il faut que les gens sachent lire ce qui se passe dans leur établissement. Et ce qui fait qu'au début de l'année, il y a eu une réunion du conseil d'administration dont le point était de revenir et d'améliorer le statut ou les textes qui créent l'UPEN, parce que c'est un processus qui a commencé, et je l'ai dit la fois passée, qui est justifié, mais qui s'est arrêté au milieu de la rivière. Donc il serait mieux d'être attentif au lieu peut-être de continuer à citer les noms des gens. Ce n'est pas ça qui changera quelque chose, parce qu'on a vu aussi des établissements qui vous disent tel donne cours, mais en vérifiant, vous voyez qu'on a mis les mots pour faire valoir et pas la réalité. Concernant l'Institut supérieur médical, expansion de l'UNILU, je voudrais d'abord rappeler que ce qui est fermé, fermé, et que tous ceux qui sont en train de percevoir de l'argent des étudiants, en fait, qui vont faire fonctionner ces institutions, seront sanctionnés. Et ces étudiants, je le dis aux parents, aux étudiants, s'ils ne veulent pas écouter les conseils que donne le gouvernement pour le bien de notre jeunesse et pour le bien des familles, ils s'en prendront à eux-mêmes, mais nous allons très rapidement vérifier pour que l'école de santé publique de l'INERU ne fasse pas des erreurs pour tromper la jeunesse. Je remercie M. Henry. Je voudrais lui dire que le gouvernement, pour mon cas de détermination, avait sorti l'argent pour s'élancer déjà à Kinshasa. Le gouvernement, par son ouverture, est en train de construire nos procédures. Nous venons de terminer au Qatar à l'Équateur, de la province orientale.
Monsieur le ministre, vous permettez qu'on prenne rapidement les bulletins d'information et on vous retrouve juste après 2 minutes et demie.
Je vous en prie.
On poursuit la deuxième partie de cette émission qui va se terminer d'ici 15 minutes. Nous parlons de l'enseignement supérieur et universitaire et surtout la rentrée académique 2010-2011. Quel est le constat fait pour vous des institutions d'enseignement supérieur universitaire dans votre milieu et quelles sont vos propositions pour améliorer l'accès à l'enseignement? Mais, monsieur le ministre, vous êtes en train de parler, mais permettez que je vous lise deux préoccupations des auditeurs, comme ça vous allez enchaîner directement et nous allons prendre Kamba, l'équipe qui s'est intéressée. Il y a Jean Desdieux qui nous écrit de Belgique, il dit ceci: je suis sur des travaux à l'université officielle de Bukavu, mais je suis étudiant en doctorant à l'université d'Anvers. Je soutiens totalement le ministre Léonard Masakobamba. Notre système éducatif d'enseignement supérieur et universitaire est en panne. Il faut sortir des choses pour les redresser. Je vous donne un exemple que j'ai vu aux environs de Bukavu avec la création de la filière d'aviation. Comme cet établissement, comment cet établissement peut fonctionner quand il n'y a aucun spécialiste de domaine? Il y a plusieurs créations des écoles doctorales au pays qui sont non viables. Manque de bibliothèques, laboratoires, enseignants, ainsi de suite. Il y a un autre auditeur qui nous a écrit, hein, aussi, je crois bien, du Kassai occidental de Kananga. Lui, il pose le problème de nomination des chefs des travaux au CIDEP. Il dit les dernières nominations datent de 2005. Il demande, monsieur le ministre, est-ce qu'au CIDEP, désormais, on ne peut pas nommer des chefs de travaux? Il n'y a pas d'assistants au CIDEP qui ont écrit, qui ont des dossiers transmis au ministère pour qu'ils soient nommés chefs des travaux. Voilà. Vous êtes en train de parler, monsieur le ministre, en enchaînant avec le 2 mail rapidement avant de prendre Kamba et Kinshasa, on vous écoute.
Oui, je disais à Henri que je remercie une fois de plus que le gouvernement, dans sa détermination, avait mobilisé les fonds pour lancer déjà l'enquête à Kinshasa. Toujours dans l'ouverture diplomatique aussi, nous avons pu faire des études avec l'appui de la coopération japonaise pour les filières médicales dans les 11 provinces. Nous venons avec l'appui de la Banque mondiale à terminer les études de viabilité dans les 4 grandes provinces. Maintenant, nous allons mettre en train de s'organiser pour que nous puissions continuer dans les 2 Kassai, le Lac Kivu, le Maniema et une partie du Bas-Congo. Donc, à l'issue, nous allons faire des états généraux de façon à tenir compte de cet état des lieux général afin de procéder à la révision et à l'adaptation des textes qui régissent l'enseignement supérieur universitaire. Donc, il ne faut pas penser à la démission, il faut plutôt penser à consolider le droit parce que ce qu'on vient de faire nous a permis de voir le visage qui n'est pas très beau de l'enseignement supérieur. Et ceci, comme vous avez suivi les deux autres intervenants qui étaient par email, il y a réellement des problèmes sur le terrain. Il faut que les Congolais aient le courage de regarder cette réalité en face et c'est possible d'y remédier progressivement. C'est le travail qu'on est en train de faire. On peut donc rassurer les amis que c'est vrai qu'il y a des écoles doctorales sur la vie 47 qui est aussi chez vous, qui est créée par une ordonnance ministérielle des ministres du Burundi et qui distribue des diplômes de docteur aux étudiants ou aux enseignants congolais, rwandais, burundais entre Bukavu et Uvira. Ça aussi, on l'a découvert à l'occasion de l'enquête que nous sommes en train de mener sur les écoles doctorales. Mmh. Et il y a aussi pour vous des institutions qui n'ont rien, mais qui, pratiquement, on a vu des défilés avec des cercueils portant le nom du ministre, qui ne peuvent pas accepter qu'on puisse leur montrer que ça, c'est de l'escroquerie. Eh bien, la détermination, elle est là. Et c'est pour ça que nous disons aux parents, aux étudiants, persévérer dans l'erreur est une sottise. Logiquement, la détermination de créer pour les jeunes Congolais un environnement qui permette à ce qu'ils soient préparés à la compétition internationale. Mmh. C'est notre détermination et si Dieu le veut, nous continuerons.
Voilà. Kambal de Kinshasa, vous êtes en ligne, mais monsieur le ministre, il y a la question posée par l'auditeur de Canada sur les nominations des chefs de travaux aussi. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez y revenir, mais donnons la parole à Kambal de Kinshasa. Vous êtes en ligne, Kambal, bonjour. Kambal, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, merci beaucoup pour la parole.
Et allez-y rapidement, on tend vers la fin de l'émission. Hein, votre proposition dans une minute, parce qu'on a passé des temps.
Oui. On dit souvent que la faim est une conscience du côté de l'estomac. Toutes mes préoccupations ont déjà été données par d'autres personnes, mais pour moi, je veux dire ceci. Toutes ces stations-là des institutions, ce sont des gabelots seulement pour intérêt, pour les intérêts personnels. Alors, le ministre a raison de le fermer, mais en ne pas de tenir compte du principe. Alors, que ce secteur-là aussi fasse vraiment des efforts pour subvenir, pour satisfaire le procès complètement.
Voilà. Merci Kambalé. Monsieur le ministre, on vous remet la parole. J'étais en train de vous lire la question d'un auditeur hein, par rapport au CIDEP, la nomination des chefs des travaux. On vous écoute.
Oui, la question du CIDEP est une question qui est complexe. Quand ils étaient dans la structure qui violait l'ordonnance 0025 du 3 octobre 1981, la procédure de nomination passait par les conseils d'administration des universités parce que université ouverte. Maintenant qu'ils ne sont plus une institution diplômante. Et là aussi, c'est quand on donne des conseils, les gens ne veulent pas les écouter. Ils doivent absolument être rattachés à des institutions qui permettent à travers les trois conseils d'administration de pouvoir évaluer s'ils remplissent les critères en termes de publication pour pouvoir être nommé chef de travaux. Aujourd'hui, le ministre, même si c'est un service rattaché directement au ministère, mais je ne peux pas nommer un chef de travaux qui ne soit pas présenté par un établissement et qui passe par le conseil d'administration. Et donc là aussi, les gens se sont obstinés à ce que quelqu'un leur promettait qu'il y aurait une ordonnance qui viendra casser les décisions du gouvernement. Et je pense que beaucoup sont restés au milieu du fleuve comme nos amis de l'UPEN, au lieu de pouvoir écouter parce que les textes sont là, ils s'imposent à nous tous. Et je voudrais préciser les choses. C'est l'occasion maintenant pour que les gens, au lieu de continuer à s'obstiner à faire fonctionner des institutions pirates, où il n'y aura aucun diplôme, il n'y aura aucune promotion d'un chef de travaux, il n'y aura pas de nomination des assistants, c'est de pouvoir écouter les conseils qu'on leur donne pour leur carrière, pour leur avenir. Concernant l'intervention de Kambalé, j'étais aussi à le remercier. Effectivement, l'éducation, c'est la négation même du savoir intellectuel. Et aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Nous essayons d'abord d'améliorer les conditions sociales du corps enseignant pour conforter et montrer aux gens que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, tient à ce secteur qui est capital pour le développement du pays. Deuxièmement, nous sommes en train, je pense, visible dans toutes les provinces. Les institutions qui sont viables et qui nous demandent dans le secteur privé, on n'est pas seulement en train de fermer, mais nous sommes en train aussi d'ouvrir. Cette année, on a ouvert une quarantaine d'établissements privés qui ont les bâtiments, qui ont les équipements, qui ont les enseignants, de façon à ce que nous puissions être attentifs à la demande qui est importante de notre jeunesse. Ce n'est pas pour être le chef de l'État, nous venons maintenant de commencer l'étude de faisabilité sur la construction des 4 nouvelles universités. Je l'ai dit le 16 octobre, une au centre, une au sud, une à l'est et l'autre à l'ouest. Toujours parce que nous avons qu'il y a cette demande, nous avons chaque année 150 000 jeunes qui terminent à l'heure secondaire. Et donc nous, nous sommes en train de mettre en place aussi des dispositions pour être en mesure de faire face à cette demande, tout en réhabilitant l'existant.
Voilà.
Et donc, ce qui n'est pas les valeurs négatives, il ne peut pas aujourd'hui rencontrer l'adhésion du gouvernement, parce que c'est prendre le peuple en otage, et ça, nous n'allons pas l'accepter.
Voilà, monsieur le ministre, pour terminer, il y a un auditeur qui dit ceci, les mesures de fermeture étaient préméditées par le ministre, lui, il s'inquiète que le ministre a initié les dit dans les universitaires, mais malheureusement ils n'ont pas reçu les conditions qui doivent être transmises à eux pour savoir ce qu'ils doivent remplir comme conditions pour leur permettre de fonctionner. C'est la dernière question qui vous permet de conclure cette émission.
Merci beaucoup. Là aussi, de nouveau, vous savez, beaucoup de gens demandent d'être nommés et quand ils sont nommés, ne lisent même pas les textes. C'est les conditions de viabilité, avoir les infrastructures. On les répète à chaque fois. Deux, avoir un corps enseignant qualifié, c'est-à-dire avoir des professeurs. Trois, avoir du matériel didactique. 4. Avoir un environnement avec des toilettes, avec des fleurs, donc un environnement digne d'une université. Ce sont des choses qui sont écrites noir sur blanc. Si vous voulez que l'institution publique, l'État, a fait un effort important pour le social du corps enseignant, et on va le continuer, le chef du gouvernement, lorsqu'il a présenté le budget le lundi 18, on y est revenu, et du côté du secteur privé, là aussi, nous encadrons, et la directive que le ministre a signée au mois de juillet, c'est pour aussi diminuer les cacasseries du monde académique. Donc, nous travaillons pour protéger notre jeunesse et la préparer à la compétition internationale. Il y a des exigences. Et tous ceux qui veulent continuer à être en dessous de ces exigences, nous ne pourrons pas les accepter. Donc, nous les fermerons et nous encourageons tous ceux qui sont décidés à donner à notre jeunesse des armes pour se défendre dans le monde.
Voilà. Nous vous disons merci, monsieur le ministre Macha Komamba, d'avoir accepté de commenter ce sujet avec les auditeurs des radios Okapi.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Nous disons également merci à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous ont écoutés, ceux qui sont intervenus, ceux qui avaient les soucis d'intervenir. Vous étiez nombreux, mais malheureusement, notre ligne de téléphone ne pouvait pas permettre à ce que vous tous vous puissiez être alignés. Nous vous disons merci. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de demain, jeudi, à partir des 11h30, de Kinshasa. Le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC, a annoncé au cours d'un point de presse l'actuel télé-actuel gouvernement congolais va procéder à l'indemnisation effective des victimes de la Zaïa. La réalisation des années 70, c'est le sujet des paroles aux auditeurs pour demain. Vous savez que d'aucuns calculent cette politique de nationalisation initiée par le président Mobutu comme l'élément déclencheur du déclin économique de la RDC. Les coûts globaux pour l'indemnisation de tous les opérateurs économiques s'élèvent à plus ou moins 800 millions de dollars américains. Une question demain pour les auditeurs, que pensez-vous de cette décision d'indemnisation prise par les gouvernements congolais? Soyez nombreux à réagir à pa@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantalumba Sintiabachizi pour la réalisation de cette émission mise en onde par Dieudonné Nyangasa.